Bonjour à tous. Je le dis, ou plus exactement, je le rappelle et j'en informe les personnes qui nous visitent. Nous avons commencé, enfin très largement commencé, puisque maintenant nous en sommes quasiment à la fin, une étude suivie de ce que l'on appelle les petits prophètes, c'est-à-dire les 12 prophètes, les 12 livres qui vont de Osée jusqu'à Malachie. Et donc nous en avons entamé l'étude. Alors l'étude, c'est un bien grand mot, hein. On ne peut pas épuiser le sujet en un seul culte, mais c'est au moins une présentation. Et puisque nous avons examiné le livre de Nahum, comme vous voulez, la semaine dernière, j'ai choisi pour cette semaine son contemporain, enfin, qui vient quelques années après, mais pas beaucoup d'années après, qui est Sophonie. Alors, je vais donc ce matin faire une incursion dans le livre de Sophonie, dont, alors comme j'ai l'habitude de, enfin, j'ai pris l'habitude de traduire les noms. De traduire les noms des prophètes parce que parfois ça a du sens. Souvenez-vous de, c'est le cas de le dire, souvenez-vous de Zacharie par exemple, dont le nom a un sens. Et là, le nom aussi de Sophonie, donc Sophonie, c'est la forme grecque de Séphania, de l'hébreu Séphania. Séphania qui vraisemblablement, parce que c'est de l'hébreu ancien, donc c'est compliqué, mais vraisemblablement veut dire celui que Dieu abrite, celui que Dieu met à l'abri. Et donc pour mettre de l'ambiance, je vais tout de suite vous en lire un petit morceau. Ça commence au chapitre 1er au verset 2. Je vais tout éliminer de la surface de la terre, oracle du Seigneur, je vais éliminer les hommes et les bêtes, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. Je vais éliminer ce qui fait trébucher les méchants. Je supprimerai les hommes de la surface de la terre, oracle du Seigneur. Voilà. Ça, c'était pour mettre l'ambiance. Et donc, vous avez compris que si vous cherchez un roman pour lire sur la plage cet été, évitez Sophonie, parce que c'est déprimant. Si je voulais faire une blague carambar, je dirais en anglais, it's not so funny. Alors, il faut, avant de délivrer, parce que je le dis là encore pour nos visiteurs, le but de ces études n'est pas documentaire. Si c'est pour faire un cours d'histoire, on n'est pas là pour ça, et ça ne présente qu'un intérêt limité. Bon, il faut quand même situer un peu le contexte, mais le but, c'est pas d'apprendre des choses sur l'histoire d'Israël. Le but, comme l'a dit Simon d'ailleurs, c'est d'en tirer profit concrètement pour notre quotidien. Alors, c'est parfois un peu compliqué, puisque là, on est quand même 26 siècles en arrière. C'est parfois compliqué de tirer des leçons pour nous, mais en tout cas, c'est ce qu'on s'efforce de faire dans cette démarche-là. Alors, il faut quand même situer le contexte. Sophonie, donc, qui parle aux environs de l'année 630, donc 7e siècle avant Jésus-Christ, pour vous situer, Nahum, c'était à peu près 660, c'est-à-dire peu de décennies plus tôt. Et donc, Sophonie intervient dans une période extrêmement troublée. Alors, pour faire court, vous savez tous que depuis la fin du règne de Salomon, le royaume a été partagé en deux. Donc le royaume du nord, qu'on appelle Israël, ou qu'on appelle les 10 tribus, ou parce qu'il était formé avec 10 tribus sur 12, ou qu'on appelle parfois Éphraïm dans la Bible, et le royaume du sud, c'est-à-dire le royaume de Juda, qui en réalité rassemblait deux tribus, Juda et Benjamin. Et vous savez, alors, pour étendre un peu la perspective, dans le Proche et le Moyen-Orient, on va dire ça comme ça, depuis toujours et presque encore aujourd'hui, la vraie richesse, c'est l'eau. Et donc, les grandes puissances, ce sont les pays très bien irrigués, ce qui est plutôt rare dans ces contrées qui sont plutôt arides. Et donc, si vous regardez une carte, vous verrez que des grands fleuves, il n'y en a pas 50. Il y a le Nil, donc l'Égypte, et l'Égypte est une grande puissance. Et puis de l'autre côté, il y a ce double fleuve, le Tigre et l'Euphrate. Et il n'y a que dans ces endroits-là qu'il y a véritablement des hectares et des centaines d'hectares et des milliers d'hectares de terres fertilisées. Et donc, comme à cette époque-là, la puissance, elle vient de là, les deux grandes puissances, elles sont, pendant des siècles, d'une part l'Égypte et d'autre part les pays qui se partagent la vallée du Tigre et de l'Euphrate, c'est-à-dire les Assyriens au nord et le royaume de Babylone plus au sud. Alors là, on est dans une période de domination assyrienne, c'est-à-dire que donc l'Assyrie, capitale Ninive, cette fameuse Ninive, domine tout le Moyen-Orient. Et c'est une domination assez très brutale, parce que les Assyriens ne font pas dans la dentelle quand ils sentent que leur domination est mise en cause et contestée. Ils emploient les moyens militaires qu'il faut, et ils les ont, ces moyens, et donc ils mettent tout le monde au pas. Et donc dans les années qui ont... Alors, la grande date pour ce qui est d'Israël, c'est la disparition du royaume du Nord, c'est-à-dire, puisque je vous ai dit que le royaume avait été séparé, donc royaume du Nord, capitale Samarie, royaume du Sud, capitale Jérusalem, et en 722, avant Jésus-Christ, en 722, Samarie est prise par les Assyriens, et donc, disparition du royaume du Nord. Les habitants sont plus ou moins dispersés. Il y en a qui se réfugient, évidemment, au sud. Et puis, il y en a qui sont, pour certains, déportés, mais très peu. Mais en tout cas, on ne parle plus à partir de là, à partir de la prise de Samarie en 722, on ne parle plus du royaume du Nord. Reste le royaume du Sud. Et donc, le royaume du Sud... va, comme d'ailleurs tous les petits pays, parce qu'il ne faut pas rêver, Israël, par rapport à ces puissances-là, c'est un petit pays, même du temps de Salomon, quand on lit la Bible, on peut avoir la fausse impression que Salomon a régné sur la moitié du monde connu, c'est pas du tout le cas, ça restait, même si c'était le royaume entier, ça restait quand même un petit pays par rapport à son environnement. Et donc, pourquoi est-ce que j'ai dit période troublée ? Parce que, à partir de la prise de Samarie, les Assyriens comme je vous le disais, agi de manière brutale, c'est-à-dire qu'ils ont saccagé Babylone, puisqu'il y avait un semblant de début de révolte du côté des Babyloniens, c'est-à-dire ceux du sud, vers Ninive, donc ils les ont écrasés, dans ce qui est l'actuel Liban et qui est la Syro-Phénicie, ils ont saccagé la ville de Tyr, et puis dernier exploit en date, ils ont, puisque leurs grands ennemis quand même, ceux qui vraiment sont en mesure de contester leur suprématie, ce sont les Égyptiens, ils ont saccagé Thèbes. Et ça vient de se faire au moment où Sophonie, donc Thèbes, la capitale de la Haute-Égypte, puisque leur capitale à ces Assyriens, c'est Ninive, vous savez que, puisqu'on a étudié les prophètes précédents, donc vous savez que du temps de Jonas, vous connaissez l'histoire de Jonas avec Ninive, donc du temps de Jonas, Dieu a dit « Je vais épargner Ninive ». Pourquoi n'aurais-je pas pitié de Ninive avec le nombre d'habitants qui y vivent, etc. Et puis, du temps de Nahum, changement de cap, Dieu dit, je vais éliminer Ninive, parce que, vous vous souvenez, je vais peut-être reprendre très brièvement. Nahum, enfin bon, je veux pas, non, je veux, parce que sinon ça va durer un temps fou. Donc Nahum dit aux Assyriens, vous avez saccagé Thèbes, donc en Haute-Égypte, eh bien, sachez que Ninive va être saccagée comme Thèbes a été saccagée. Et donc, tout ça fait que, au moment où Sophonie prend la parole, il y a à Jérusalem une lutte d'influence, parce que quand on est un petit pays et qu'on est le jouet de rivalité entre grandes puissances, il faut choisir son camp. Et donc choisir son camp, c'est un peu jeter les dés, c'est-à-dire que il faut choisir le bon cheval. Il faut choisir celui dont on pense que, enfin, il y en a plus beaucoup ici, mais peut-être encore quelques-uns qui étaient très jeunes, mais qui ont connu la période troublée du milieu du XXe siècle. Les Français, ils ont choisi leur camp. Et la moitié, je sais pas, ça, les proportions ont changé, mais il y avait une partie de la population qui se disait, de toute façon, l'Allemagne nazie est installée comme puissance suprême en Europe pour des décennies, voire des siècles, et donc autant être du bon côté. Et puis il y a ceux qui se disaient, non, c'est pas possible, on peut pas laisser ces gens-là dominer l'Europe, et donc il faut résister. Bon. Donc ce genre de période est forcément une période troublée, et donc à Jérusalem, il y a le même trouble, c'est-à-dire qu'il y a le parti du côté égyptien, c'est-à-dire ceux qui se disent, les Égyptiens, certes Thèbes a été prise, mais les Égyptiens vont prendre leur revanche, donc il faut être du côté des Égyptiens. Il y a le parti des Babyloniens, ceux qui disent Babylone va finir par renverser Ninive, et puis il y a ceux qui sont pour la puissance dominante, c'est-à-dire non, Ninive va résister, et donc bon. Et donc il y a comme ça au niveau de la cour, au niveau du palais, une rivalité d'influence entre plusieurs tendances. Alors depuis la fin du royaume du Nord, il y a eu au Sud on en est au quatrième roi, c'est-à-dire que Sophonie prend la parole sous le règne de Josias. Alors Josias, qu'il ne faut surtout pas confondre avec Ozias, puisqu'on a étudié Amos et d'ailleurs également Osée, prennent la parole du temps d'Ozias, c'est-à-dire plus d'un siècle plus tôt. Là, on parle de Josias. Alors Josias, il a une particularité, ce roi, c'est qu'il a 8 ans. C'est un gamin. Pourquoi est-ce qu'il a 8 ans? Parce que, quand je disais période troublée, son père, qui s'appelle Amon, s'est fait assassiner au bout de 2 ans de règne, vous voyez, ça a été vite plié, il s'est fait assassiner dans son palais à Jérusalem par des gens qui étaient pas du même bord que lui. Alors, disons, il y en a eu 4, hein. Il y a eu Ézéchias. Alors, Ézéchias, lui, il a voulu résister, dans un premier temps, il a voulu résister à la puissance assyrienne, ce qui fait qu'il a fait, et en plus il l'a montré un peu trop visiblement, parce qu'il a fait entourer Jérusalem de fortifications, donc ça n'a pas plu du tout aux Assyriens, qu'on fait le siège de Jérusalem, et il a fallu, pour que le sort de Jérusalem ne soit pas celui de Samarie, c'est-à-dire que Jérusalem ne soit pas rasée. Alors Jérusalem sera rasée, mais plus tard, hein, par les Babyloniens, déportation à Babylone, ça c'est la, Jérusalem sera prise en 587. Mais là pour l'instant, on en est au point où Ézéchias, qui avait fait construire des fortifications autour de Jérusalem, a subi le siège des Assyriens, qui lui ont dit ou tu te soumets ou alors ta ville va être rasée, et donc il s'est soumis. Donc lui, donc le deuxième derrière, ça a été Manassé. Manassé qui, lui, a bien compris que son intérêt, c'était pas de défier la puissance assyrienne. Et ensuite, Amon, dont je vous disais que ça a été vite plié, puisqu'il s'est fait assassiner au bout de 2 ans de règne. Et donc, on a un gamin. Alors, dans l'histoire de France, on a connu ça. On a connu des enfants rois. Et donc, vous savez que derrière la façade de l'enfant roi, il y a une lutte impitoyable d'influence entre ceux qui veulent la régence, c'est-à-dire ceux qui veulent déterminer la politique qu'un enfant de 8 ans ne peut évidemment pas conduire tout seul. Alors, voilà la situation. Et donc, Sophonie, dont il n'est pas impossible que ce soit un descendant, alors pas un descendant dans la ligne principale, c'est-à-dire pas un héritier du trône, mais un descendant d'Ézéchias, c'est-à-dire 4 avant. Pourquoi est-ce que je dis ça? Eh bien, parce que le livre de Sophonie commence comme ça. « Parole du Seigneur qui fut adressée à Sophonie, fils de Couchi, fils de Guédalia, fils d'Amaria, fils d'Ézéchias, au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda. » Alors, c'est inhabituel, vous trouverez ça nulle part ailleurs, c'est inhabituel que quand on dit Sophonie, fils de machin, bon, ça c'est normal. On donne toujours le nom du père, puisqu'il n'y a pas un prénom et un nom propre, donc c'est comme ça qu'on identifie les gens. Mais par contre, remonter sur 4 générations, quel est l'intérêt? Aucun, sauf si effectivement, à la 4e génération, on trouve un roi. Et alors, même si on n'en est pas sûr à 100%, il est probable que le Ézéchias en question, donc l'ancêtre de Sophonie, ce soit le roi Ézéchias. D'abord parce que je vous dis, sinon, quel serait l'intérêt de faire remonter cette généalogie? Et puis surtout, ça correspond au niveau des dates. C'est-à-dire qu'effectivement, 4 générations avant Sophonie, le roi, c'est bien Ézéchias. Donc voilà. Alors, en tout cas, l'influence de Sophonie, et j'en aurais terminé avec mon tour d'horizon historique, qui est déjà bien long, l'influence de Sophonie va être déterminante, c'est-à-dire que Josias va, pour parler en termes évangéliques, revenir au Seigneur, c'est-à-dire ramener le peuple vers son Dieu. Pourquoi ramener le peuple vers son Dieu? Eh bien parce que, comme je vous le disais, les différentes factions qui sont soit pro-égyptiennes, soit pro-babyloniennes, puisque vous savez, puisque comme je le disais, en 587, Jérusalem sera prise et rasée par les Babyloniens. Et donc, les Babyloniens vont finir par prendre Ninive, comme les prophètes l'avaient annoncé, puisque, encore une fois, Nahum et Sophonie vont confirmer que Ninive ne va pas garder sa suprématie. Et effectivement, Sophonie dit ça vers l'an 630, et la chute de Ninive, c'est 612. Donc là, on est. Donc Nahum l'avait annoncé longtemps à l'avance, et Sophonie reprend ça très peu de temps à l'avance, en disant Ninive ne va pas subsister. Alors pourquoi est-ce que j'ai dit tout ça? Parce que dans les différentes factions qui sont pro-égyptienne, pro-babylonienne, pro-ceci, pro-assyrienne, comment est-ce que on s'attire les bonnes grâces d'un pays influent à l'époque? Eh bien, c'est tout simple. En adoptant ses dieux. Qu'est-ce qui fait plaisir à un pays du Moyen-Orient à l'époque? C'est de voir, parce qu'aujourd'hui, quand on veut faire plaisir à un pays ami, on lui achète des missiles, mais évidemment, à l'époque, c'est pas le cas. À l'époque, comment est-ce qu'on se fait des potes dans la diplomatie en disant « ton Dieu est le bienvenu chez nous ». Donc, Jérusalem, c'est bien sûr la ville de Yahweh, mais c'est aussi devenu un espèce de machin sur le plan religieux où tout et n'importe quoi se côtoient. C'est-à-dire qu'il y a les dieux égyptiens, les dieux assyriens, les dieux babyloniens, tout ça pour faire plaisir, et tout ça pour s'attirer les bonnes grâces des puissances influentes. Et quand je disais Sophonie va avoir une influence positive, c'est-à-dire que Josias, pendant son règne, alors une fois qu'il sera adulte, parce que, effectivement, à 8 ans, c'est difficile de taper du poing sur la table en disant « on revient au Seigneur », mais il va finir par le faire. Il va finir par le faire, et l'influence de Sophonie n'aura pas été belle. Alors, je vais commencer, donc, enfin, je vais butiner, si je puis dire. Donc, je vais vous parler de la confirmation par Sophonie de la prophétie de Nahum. C'est au chapitre 2 et au verset 13. Il étendra la main contre le nord et fera périr la Syrie. Donc c'est loin au nord, hein. Enfin c'est même nord-est. Il fera de Ninive une terre dévastée. Ben voilà, c'est bien, vous l'avez. Il fera de Ninive une terre dévastée, aride comme le désert. Au milieu d'elle se reposeront les troupeaux et des bêtes de toutes sortes. La corneille comme le hérisson passeront la nuit dans ses chapiteaux. On entendra un hurlement à la fenêtre. Dès le seuil, ce seront des ruines. Les poutres de Seth seront mises à nu. Telle est la ville joyeuse qui trônait en sécurité. Celle qui disait « moi » et aucune autre. Alors c'est traduit comment ici ? Celle qui disait « moi » et aucune autre. C'est le verset 15. Chapitre 2, verset 15. Ah voilà. Voilà, moi et rien que moi. Cette formule en hébreu manifeste l'orgueil qu'une ville peut avoir. Quand je lis ça, ça me fait penser à. Peut-être certains d'entre vous, c'est ce qu'on dit à propos de New York. Ce qu'on peut faire là-bas, on peut le faire n'importe où. Ça, c'est très prétentieux. Ce qu'on est capable de faire à New York, on peut le faire n'importe où dans le monde. C'est un slogan très, très new-yorkais. Eh ben, c'est à peu près ça. À part moi, il n'y a rien d'autre. Donc voilà ce que dit Dieu à propos de Ninive. Comment est-elle devenue une terre désolée, un repère pour les bêtes? Quiconque passe près d'elle siffle et agite la main. Ce qui est un signe de mépris pour une terre qui n'est plus que ruine. Donc voilà ce que dit Sophonie à propos de Ninive, c'est-à-dire pour l'instant et pour peu de temps encore, Ninive c'est la grande ville qui domine, mais dit Sophonie, je confirme la prophétie de Nahum, ça ne va pas durer. Alors, je vais aller beaucoup plus vite maintenant parce que... Maintenant que j'ai situé le contexte, et encore une fois, dans la démarche qui est la nôtre, quel est l'intérêt pour nous de ce livre? Parce que ça remonte quand même à des dizaines et des dizaines de siècles. Donc, moi je trouve le livre de... Enfin, c'est pour ça que j'ai choisi, me direz-vous. Je trouve le livre de Sophonie très actuel. Et très actuel pourquoi? Et j'allais dire, actuel pour nous... Alors que ça fait au moins 15 siècles en tout cas, peut-être 16 ou 17, que ce livre n'avait pas été aussi actuel. Je lis au chapitre 2, donc verset 4, je vais essayer de pas trop m'étendre sur les lectures. Gaza va être abandonné, Ashkelon dévasté. Ashdod, en plein midi, on l'expulsera et Ekron sera déraciné. Et ensuite, au verset 8, j'ai entendu les insultes de Moab, les sarcasmes des fils d'Ammon, donc Moabites et Ammonites, ça c'est les peuples de l'Est, qui s'agrandissaient aux dépens de mon territoire. C'est pourquoi, par ma vie, oracle du Seigneur, Moab deviendra comme Sodome et les fils d'Ammon comme Gomorre, un domaine de ronces, une mine de sel, une terre dévastée à jamais. Et on continue le tour du propriétaire au verset 12. Et vous aussi des Nubiens, donc les peuples du sud, puisque on a fait l'ouest, on a fait l'est, maintenant on fait le sud. Et vous aussi des Nubiens, mon épée vous a transpercé, et contre le nord, il étendra la main contre le nord et fera périr la Syrie. Donc la situation d'Israël, enfin plus exactement du royaume de Juda, mais c'est ce qui reste de l'Israël de Salomon. La situation du royaume de Juda, et c'est pour ça que ça doit nous parler, elle est celle-ci. Quelle que soit la direction dans laquelle on regarde, et la condamnation de Dieu est universelle, quelle que soit la direction dans laquelle on regarde, Dieu est méprisé. Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, enfin, c'est pas dans cet ordre-là, mais peu importe, vous regardez dans toutes les directions possibles et nulle part vous ne trouvez ce que la Bible appelle la crainte de Dieu. Alors pas la crainte au sens de la peur, mais la crainte au sens du respect. Aujourd'hui, et encore une fois pour la première fois depuis au moins 15 siècles, nous, dans notre quotidien, quelle que soit la direction dans laquelle on regarde, ou surtout on écoute, on ne trouve pas le respect de Dieu. Dieu, dans notre société, est quasiment effacé. Je suis tombé par hasard, je suis assez téléphage, hein, je suis tombé par hasard sur un film que j'avais vu, qui m'avait beaucoup impressionné quand j'étais gamin, donc c'est vous dire s'il est jeune le film, qui m'avait beaucoup impressionné, qui s'appelle La guerre des mondes. Alors, La guerre des mondes, c'est un film de 1953, sauf erreur de ma part, mais qui a fait l'objet d'un remake, comme on dit, il y a quelques années, avec Tom Cruise. Donc il y a une guerre des mondes, enfin un film La guerre des mondes version 53 et un film La guerre des mondes version 2000 et quelques, enfin je ne sais plus, et c'est censé raconter la même histoire. Et ce qui est très frappant, c'est que dans le film de 1953, il y a une fin très très moralisante, parce que les Martiens qui, alors on lutte contre l'invasion des Martiens par tous les moyens, y compris la bombe atomique, et finalement il n'y a rien qui les atteint, sauf que ils finissent par mourir à cause des bactéries qui sont dans l'air. Et donc en 1953, on dit ouvertement dans le film, voilà, tous les hommes, et la symbolique est forte. Tous les hommes ont lutté contre cette invasion et, avec leurs moyens, n'ont rien pu faire, alors que ce que Dieu a réussi, ce que Dieu avait créé de plus petit, c'est-à-dire les bactéries, les microbes, ça a réussi à en venir à bout. Et donc, bon, la leçon est facile à comprendre. C'est-à-dire que ce que les hommes peuvent faire au maximum, ça n'arrive pas à la cheville de ce que Dieu peut faire avec rien. Et dans le film, dans le remake, il n'y a plus du tout, mais aucune référence à l'action divine. Tout simplement parce que en l'espace de, on va dire, 70 ans, ou 60 ans, Dieu a été éliminé complètement de notre environnement. Dieu n'existe plus, socialement. Nietzsche a gagné. Dieu est mort. Alors Dieu est mort socialement, c'est-à-dire que, comme dirait Sophonie, vous regardez au nord, vous regardez au sud, vous regardez à l'est, vous regardez à l'ouest, des traces de Dieu, vous n'en trouverez pas. Dans notre environnement, il n'y en a plus. Ça, c'est le premier constat, et c'est la première ressemblance, parce que, quand je disais, ça fait 17 siècles que c'est pas arrivé, jusqu'à un passé très récent, la société, alors, ça ne présume pas de la valeur de la foi individuelle et de la relation que chacun avait avec Dieu. C'est pas de ça que je parle. Mais la société était christianisée. C'est-à-dire que les références à Dieu, il y en avait partout, tout le temps. On vivait dans un environnement où Dieu était présent. Alors, parfois de manière très superficielle, mais aujourd'hui. Et alors, ce que dit Sophonie et que nous, on a besoin d'entendre, c'est que ceux qui ne respectent pas Dieu, ceux qui ne craignent pas Dieu au sens biblique du terme, ils sont pas neutres, ils sont hostiles. Faut que les chrétiens aient les yeux ouverts là-dessus, c'est que parce que vous connaissez la prophétie de Micha, enfin Michée, qui avait dit c'est normal, chaque peuple marche au nom de son Dieu, nous on marche au nom de Yahweh. Bon, si c'était ça encore, pourquoi pas? C'est-à-dire que si dans la société contemporaine, il y avait les chrétiens et puis les autres qui ne partagent pas leur foi ou qui adorent un autre dieu ou qui et si chacun se respectait, ça irait. Mais ce que Dieu annonce par la bouche de Sophonie, et on a besoin de l'entendre, c'est que ceux qui ne sont pas, vous connaissez la parole de Jésus, celui qui n'est pas de mon côté, il est contre moi. Et on vit dans une société, et ce sera de plus en plus vrai. Moi, je suis pas prophète, mais je vous l'annonce parce que c'est tellement facile à dire, à annoncer. C'est tellement visible que de plus en plus, être chrétien dans le monde qui vient, ça sera compliqué. Ce sera vraiment une vie de saumon. C'est le saumon qui nage à contre-courant, hein, sauf erreur. Voilà. On est vraiment appelé à une vie de saumon. C'est-à-dire, on nage dans un sens et tous les autres nagent dans l'autre. Et on sera à contre-courant. Ce que dit Sophonie, c'est pas les autres à côté, ils ont leur dieu et tout va bien. Ils disent « J'ai entendu les insultes de Moab, les sarcasmes des fils d'Ammon, eux qui insultaient mon peuple. » Et vous allez voir ce qu'a dit Jésus à ses disciples, ça va être vrai pour cette génération et celle qui vient. C'est que les chrétiens, et ça commence déjà, dans le monde qui vient, seront agressés. On ne nous laissera pas tranquilles. Parce que ceux qui sont en dehors de la crainte de Dieu, évidemment, ne seront pas neutres à notre égard. Alors, c'est ça la première leçon de Sophonie. C'est que on est dans un monde où... de quelque côté qu'on tourne le regard, on va devoir affronter l'hostilité. Bon, je ne m'étends pas davantage. Là, le deuxième constat que fait Sophonie, et qui, je trouve, est très vrai aussi pour nous, c'est que, parce que bon, avoir des ennemis, ça arrive à tout le monde, et puis, une fois qu'on le sait, on sait ce qu'il faut affronter, et puis on est du côté de Dieu, ou plutôt Dieu est de notre côté, donc on sait... On a les armes qu'il faut. Mais vous connaissez la boutade fameuse, Seigneur, délivrez-moi de mes amis, mes ennemis, je m'en charge. Voilà, il y a des amis qui vaut mieux ne pas avoir. Enfin, je veux dire que il y a des gens qui sont prétendument du bon côté et qui en fait pas du tout. Et ça, c'est beaucoup plus dangereux et beaucoup plus insidieux. Et le constat que fait Sophonie, c'est que non seulement tous les peuples alentours sont hostiles au peuple de Dieu, mais que dans le peuple de Dieu, il y a une majorité de gens, enfin dans le peuple de Dieu, dans le prétendu peuple de Dieu, dans ceux qui portent l'étiquette « Nous sommes les enfants d'Abraham ». Et vous savez ce que Jésus va dire à propos de ceux qui se prétendent être les enfants d'Abraham. Dieu peut fabriquer des enfants d'Abraham avec n'importe quoi. C'est pas parce qu'on porte une étiquette qu'on l'est. Et donc, le deuxième constat que fait Sophonie, et ça, c'est au chapitre 1er, je lis au verset 4, « J'étendrai ma main contre Judas », donc là on parle du royaume, enfin de celui qui se prétend le peuple de Dieu, « J'étendrai la main contre Judas et contre tous les habitants de Jérusalem, je supprimerai de ce lieu ce qui reste du Baal, c'est-à-dire le nom de ses officiants et les prêtres avec eux, ceux qui se prosternent sur les terrasses devant l'armée des cieux, ceux qui se prosternent devant le Seigneur, tout en jurant par leur dieu Mélek, parce que comme je vous le disais, c'est traduit comment là ? Ceux qui se prosternent devant l'armée des cieux, qui se prosternent en jurant par l'Éternel, en jurant par leur roi. Oui, enfin c'est pas tout à fait. Enfin, dans l'original, ceux qui se prosternent devant le Seigneur, tout en jurant par leur dieu Mélek. Mélek était un dieu d'une puissance étrangère, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On se fait des copains en adoptant leur dieu. Ceux qui se détournent du Seigneur, qui ne le recherchent pas et qui ne le consultent pas. « Silence devant le Seigneur Dieu, car le jour du Seigneur est proche. » L'accusation de Sophonie, là, elle n'est plus externe, elle n'est plus extérieure, elle est intérieure. Et je n'ai pas voulu vous lire tout le passage, mais il y a une phrase de ce passage que je veux impérativement vous lire, c'est le verset 12. « Eh bien, en ce temps-là, je fouillerai Jérusalem avec des torches et j'interviendrai contre les hommes figés dans leur inertie et ceux qui pensent « le Seigneur ne peut faire ni le bien ni le mal ». C'est-à-dire, il y a peut-être un Dieu, mais ce n'est pas un Dieu qui intervient dans la vie de chaque individu. Ça, ce n'est pas possible. Ça, c'est de la superstition. Ça, c'est de la naïveté. Penser que Dieu est à ce point proche des hommes qu'il est capable, enfin, non seulement il le peut, mais qu'il a envie d'intervenir dans la vie de chacun pour changer le destin, ça, faut être évangélique pour croire des conneries pareilles. Je dis un gros mot, mais c'est ce que j'ai entendu. Et dans le monde chrétien, ou dans le monde prétendument chrétien, alors, on continue d'adorer Dieu, parce qu'il y a un système, comme à l'époque. À l'époque, il y a le temple, il y a donc les gens qui sont payés, qui ne vivent que de ça, hein, qui ne vivent que de la religion. C'est-à-dire, il y a, et vous savez, les excellents rapports que ces gens-là vont entretenir avec Jésus. Les prêtres, les scribes, les docteurs de la loi, tous ces gens-là, c'est leur carrière. Donc, hors de question de dire, bon, ça c'est du passé, on met ça à la poubelle. Donc, aujourd'hui encore, il y a, par rapport à la chrétienté, ou par rapport, on va dire, au christianisme, il y a encore des fonctionnaires, comme aurait dit Kierkegaard. C'est pas le problème. Mais ces gens-là qui disent, oui, on est dans un système où on est les fonctionnaires d'un système qui se revendique comme étant au service de Dieu, mais par contre, n'essayez pas de me faire dire que Dieu peut intervenir dans la vie des gens. Enfin, non, il y a peut-être vaguement quelque chose, parce que c'est même plus quelqu'un, c'est quelque chose, il y a peut-être vaguement quelque chose une espèce de principe, une espèce d'intelligence supérieure. Vous avez peut-être entendu parler de la théorie américaine du dessin intelligent, intelligent design. Ça ne peut être que ça, Dieu. Mais un Dieu tout proche, un Dieu qui se comporte comme un père, parce que c'est comme ça que vous l'appelez, vous qui êtes tellement naïf et qui peut intervenir dans la vie de ceux qui sont ses enfants, on a dépassé ça quand même. On n'est plus des primates. C'était vrai du temps de Sophonie, c'est vrai aussi de notre temps. Et le troisième constat que fait Sophonie, c'est, aux alentours, c'est l'hostilité, à l'intérieur, c'est l'hypocrisie, c'est-à-dire que, en fait, la foi, la confiance dans le Seigneur a été vidée de sa substance, mais on met pas tout le monde dans le même sac. Et Sophonie va reprendre un thème qui était un thème cher à... Alors, non pas aux autres petits prophètes, quoique on en parle aussi dans certains autres, mais surtout dans les grands prophètes et spécifiquement chez Ésaïe, il y a ce qu'on appelle en hébreu, ce qu'il appelle en hébreu un reste. Il y a un reste, c'est-à-dire, il y a ceux qui ne se sont pas compromis avec ça. Il y a ceux qui, évidemment, n'ont pas adopté les dieux étrangers pour faire plaisir aux puissances dominantes, ou qui n'ont pas adopté les croyances à la mode, et qui n'ont pas non plus vidé la foi de sa substance en disant « Dieu n'est capable de faire ni le bien ni le mal ». Il y a ceux qui sont fidèles. Et Dieu dit par la bouche de Sophonie, ceux-là, ils sont pas nombreux. Et je savais que ce matin, on serait pas nombreux, donc... Je me suis régalé, je me suis dit, il n'y aura pas besoin de beaucoup d'explications. On représente un minuscule pourcent de la population grassoise. Alors, il n'y a pas que nous qui sommes réunis pour adorer Dieu. N'exagérons rien. Mais quand on met bout à bout, tous ceux qui, à grâce, sont dans cette démarche-là au moment où je parle, ça fait toujours pas 1% de la population grassoise, je vous rassure. Donc c'est vraiment que dalle, c'est peanuts. Et Sophonie dit, pareil, ceux qui sont fidèles, ils sont pas nombreux. Mais je les mets à part. Je les mets à part, je les mets à l'abri. C'est Phania, Sophonie, ça veut dire ça. Il y a quelques petits prophètes dont le nom est déjà une annonce par rapport à leur message. Et Séphania en fait partie, Sophonie en fait partie. Dieu met de côté, met à l'abri, protège. Alors, ces gens-là, donc la dernière catégorie, le fameux reste d'Israël, ils ont deux qualités à cultiver. Ils ont deux qualités à cultiver, il leur dit au chapitre 3 et au verset 12, je maintiendrai, alors, parce qu'il parle, à plusieurs endroits du fameux reste, hein. Chapitre 3, verset 12, je maintiendrai au milieu de toi un reste de gens humbles et pauvres, ils cherchent refuge dans le nom du Seigneur. Alors, ils cherchent refuge, pareil, c'est la même racine que la racine du nom de Sophonie. Mettre à l'abri, c'est donner un refuge. Donc ça, c'est juste pour le jeu de mots, parce que la Bible, comme vous le savez, est pleine de clins d'œil de ce genre. Mais, et un autre endroit, mais dont j'ai perdu la référence, il dit que ce reste, il cherche la justice. La justice, pas au sens institution judiciaire, la justice au sens de faire ce qui est juste pour Dieu. C'est mieux traduit, parce qu'en français, on n'a qu'un mot pour dire justice au sens judiciaire et justice au sens ce qui est juste. En anglais, par exemple, il y en a deux, c'est righteousness. On est donc appelé à cette double vigilance, nous qui nous prétendons, ou que le Saint-Esprit, auquel le Saint-Esprit témoigne que nous sommes effectivement le reste en ces temps de la fin, nous sommes appelés à être vigilants sur le fait de faire ce qui est bien, ce qui est juste aux yeux de Dieu, et le faire dans l'humilité. Ça, c'est pas facile, parce que du coup, quand on n'est pas nombreux et qu'on a l'impression d'être les derniers des Mohicans, on développe facilement un complexe de supériorité. C'est ce qui a entraîné les Esséniens, par exemple, à l'époque de Jésus. Les Esséniens, ils ne vivaient pas avec les autres, parce que c'était les gens purs. Donc, ils ne vivaient pas dans la société. Ils se renfermaient sur eux-mêmes, ils s'isolaient, parce que les gens purs ne se mélangent pas avec les autres. C'est pareil pour les cathares. La mentalité cathare, c'était ça aussi. On va se percher sur les plus hauts sommets et surtout on laisse. Bon, vous savez ce qui est arrivé au Qatar, mais la mentalité Qatar, c'était de dire nous on est les purs et donc on laisse dans la vallée l'impureté ambiante et on se sépare. Et Sophonie dit non, l'humilité c'est pas ça. L'humilité c'est de vivre. Enfin, Jésus aussi dira la même chose en disant vous n'êtes pas du monde, mais vous êtes dans le monde. L'inverse. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. C'est-à-dire, ne vous retirez pas du monde, ne devenez pas des ermites. Parce que ça, c'est pas l'humilité. L'humilité, c'est de vivre au milieu des autres, mais dans la fidélité au Seigneur. Et c'est pas facile. C'est pas facile dans un environnement hostile et dans un environnement qui, j'allais dire, sur le plan de la chrétienté ou du christianisme, et ce sont des mots péjoratifs dans ma bouche, qui est imbibé d'hypocrisie, c'est pas facile d'être fidèle au Seigneur au quotidien et de le faire dans l'humilité, c'est-à-dire de ne pas se croire supérieur à ceux qu'on côtoie. Et donc, quand même un élément essentiel. Ce que Sophonie annonce principalement, c'est que pour tout ça, pour tous, il va falloir passer à la caisse. C'est-à-dire, il y a des comptes à rendre. Alors, il dit, le moment où chacun devra rendre des comptes, les peuples et les individus qui les composent, ça s'appelle le jour du Seigneur. Il y a un jour, il y a un moment où chacun, chaque peuple, chaque individu devra rendre compte. C'est-à-dire, les peuples qui n'ont pas, alors vous connaissez la tirade, si je puis dire, de l'apôtre Paul, dans le début de l'épître aux Romains, la colère de Dieu se révèle du haut du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent la vérité captive de l'injustice. Enfin bon, je vous la fais brève, il dit, il suffit de regarder la nature, il suffit de regarder la création. Les perfections invisibles de Dieu sont visibles depuis la création du monde. Il suffit de regarder la création pour voir ce qu'est Dieu dans la beauté du monde, dans la complexité du monde, dans l'harmonie du monde. Là, il y a la trace de Dieu. Et si vous ne voyez pas Dieu rien qu'avec ça, alors vous êtes déjà coupable. Parce que, ah oui, mais le petit Chinois qui est né sous Mao, mort sous Mao, il n'a jamais entendu parler de Jésus-Christ. Bah oui, mais il a eu la nature sous les yeux. Et donc, il va falloir que chacun rende des comptes, les peuples, mais aussi les individus qui les ont conduits. Et pour le peuple de Dieu, ceux qui se prétendaient les fonctionnaires du divin, et donc... Pour tout cela, il est proche le grand jour du Seigneur, il est proche, il vient en grande hâte, c'est le chapitre 1er et le verset 14, je le dis pour José. On criera amèrement au jour du Seigneur, le brave lui-même appellera au secours, jour de fureur, jour de détresse et d'angoisse, jour de désastre et de désolation, jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuées et de sombres nuages, jour de sonnerie du cor et de cris de guerre, contre les villes fortes et contre les hautes tours des angles, je jetterai les hommes dans la détresse, ils marcheront comme des aveugles, car ils ont péché contre le Seigneur. Voilà ce que Sophonie annonce. C'est pas très poilant, hein, comme ça. Mais il ne dit pas que ça, Sophonie. Sophonie dit, bien sûr, il y a un moment où tout devra se payer. Il y a un moment où tout devra se payer. Mais il ajoute que le jour du Seigneur, c'est-à-dire le moment du règlement de compte, ça sera aussi pour ce fameux reste. Et que ceux qui sont vraiment le peuple de Dieu, pour eux, le jour du Seigneur, ça ne sera pas un jour terrible, un jour de désolation, un jour de destruction, un jour apocalyptique au sens qu'on en a fait. Parce qu'apocalypse, apocalypsis en grec, ça veut juste dire lever le voile, ça veut dire révélation. Mais on en a fait quelque chose de... parce que quand on dit en français apocalyptique, ça veut dire que c'est pas très poilant. Ça ne sera pas que ça, le jour du Seigneur. Pas qu'une apocalypse terrible et ravageuse. Ce sera aussi le jour de la joie de ceux qui seront restés dans la justice et dans l'humilité auxquels le Seigneur les appelle. Alors, au chapitre 3 et au verset 11, chapitre 3, verset 11, « En ce jour-là, c'est toujours du jour du Seigneur dont on parle, tu n'auras plus à rougir de toutes tes mauvaises actions, parce que on a beau être le reste, on a beau être les fidèles et les humbles, on n'est pas pour autant des saints, hein, l'auréole, hein, vous voyez ce que je veux dire. Bon. Donc, des mauvaises actions, il y en a quand même, c'est pas la question. Mais tu n'auras plus à rougir de toutes tes mauvaises actions, de ta révolte contre moi, car à ce moment-là, j'aurai enlevé du milieu de toi les vantards orgueilleux, c'est-à-dire le contraire des humbles, bien sûr, et tu cesseras de faire l'arrogante sur ma montagne sainte. Je maintiendrai au milieu de toi un reste de gens humbles et pauvres. Ils chercheront refuge dans le nom du Seigneur. Le reste d'Israël ne commettra plus d'iniquité. Ils ne diront plus de mensonges. On ne surprendra plus dans leur bouche un langage trompeur, mais ils pourront paître et se reposeront sans personne pour les faire trembler. Fini l'hostilité. Fini l'hostilité. Le jour du Seigneur, c'est pas seulement le jour terrible qu'annoncent les prophètes, c'est le même moment de l'histoire dont Jésus a parlé en disant « Abraham a vu mon jour et il a été transporté de joie ». Ce sera un jour de joie. On a chanté, je crois, un truc, jour de joie, jour de victoire. Non, on l'a pas chanté. Bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, il y a un cantique comme ça. Voilà. Il y a un jour qui est effectivement un jour redoutable pour ceux qui sont hostiles au Seigneur ou les hypocrites qui en font leur fonds de commerce et qui ne croient pas finalement qu'ils soient capables ni de bien ni de mal, c'est-à-dire d'intervenir dans nos existences. Mais pour les autres, c'est un jour de joie. Et l'appel de Sophonie, et j'aurai terminé, l'appel de Sophonie, c'est que il est toujours temps de passer d'une catégorie à l'autre. L'appartenance à la catégorie de ceux pour qui le jour du Seigneur sera terrible et de ceux pour qui le jour du Seigneur sera un jour de joie, ça, c'est pas gravé dans le marbre, puisqu'il dit... Il dit, voilà, c'est ça, oui, j'ai perdu, chapitre 2, « Entassez-vous, tassez-vous, ô nations sans honte, avant que survienne le décret et que le jour se soit enfui comme la balle, avant que vienne sur vous l'ardeur de la colère du Seigneur, avant que vienne sur vous le jour de la colère du Seigneur, recherchez le Seigneur, vous tous, les humbles, toujours les humbles, de la terre, qui mettait en pratique le droit qu'il a établi, donc la justice, rechercher la justice et chercher l'humilité, c'est ce que je vous disais, des deux qualités qui sont attendues de nous, et peut-être serez-vous à l'abri, Sophonie, le Seigneur met à l'abri, peut-être serez-vous à l'abri au jour de la colère du Seigneur. Il n'est jamais trop tard pour être du bon côté, du côté de ceux pour qui le jour du Seigneur sera un jour de joie. Et par contre, pour ceux qui y sont, il faut être vigilant sur le fait de faire ce qui est juste aux yeux de Dieu et le faire dans l'humilité. Et je termine par la fin, parce que la fin du livre de Sophonie est magnifique. La joie, c'est pas rien. Les mots en grec qui sont utilisés quand Jésus en parle pour dire que Abraham, qui a vu ce jour-là, a été transporté de joie. Je pense que c'est comme ça que c'est traduit. C'est dans Jean au chapitre 8, je crois. Chapitre 8, verset quoi ? C'est écrit trop petit. 55, 56, Jean 8, 56. Petit, tu l'as pas, de papa. Tressaillit, voilà, c'est traduit. Abraham, votre père, a exulté à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et il a été transporté de joie. Et donc, je ne résiste pas, puisque j'ai pris l'habitude de m'arrêter à midi et qu'il n'est que midi moins 5. Je m'étonne moi-même. Donc, je lis ce que Sophonie a écrit, et ce sera ma conclusion à propos de ce jour. « Crie de joie, fille de Sion, pousse des acclamations, Israël. Réjouis-toi, ris de tout ton cœur, fille de Jérusalem. Le Seigneur a levé les sentences qui pesaient sur toi. Il a détourné ton ennemi, le roi d'Israël. Le Seigneur lui-même est au milieu de toi. » Tu n'auras plus à craindre le mal. En ce jour-là, on dira à Jérusalem, n'aie pas peur, Sion, pour que tes mains ne faiblissent pas. Le Seigneur ton Dieu est au milieu de toi, en héros, en vainqueur. Il est tout joyeux à cause de toi. Dans son amour, il te renouvelle, il jubile et crie de joie à cause de toi. Je rassemble ceux qui étaient privés de fête, ils étaient loin de toi. La honte qui pesait sur Jérusalem, je vais agir à l'égard de tous ceux qui te maltraitent. En ce temps-là, je sauverai les brebis boiteuses, je rassemblerai les égarés, je vous mettrai à l'honneur. Et votre renom s'étendra dans tous les pays où vous avez connu la honte. En ce temps-là, je vous ramènerai. Ce sera le temps où je vous rassemblerai. Votre renom s'étendra et je vous mettrai à l'honneur parmi tous les peuples de la terre. Quand sous vos yeux, je changerai votre destin, dit le Seigneur. Et là, il termine en citant les petits prophètes qui l'ont précédé, puisque déjà Amos avait dit, Amos au chapitre 9, Amos chapitre 9, verset 14, « Je change la destinée d'Israël, mon peuple. Ils rebâtissent les villes dévastées pour y demeurer. Ils plantent les vignes. » Et Osée aussi, qu'on a aussi étudié, avait dit, chapitre 6, verset 11, « À toi aussi, Judas, je prépare une moisson quand je changerai le destin de mon peuple. » Notre Dieu, quoi qu'en dise et quoi qu'en pense notre environnement, alors il y a deux sortes d'environnements, c'est ce que nous dit Sophonie, il y a ceux qui s'en foutent complètement et qui disent « tout ça c'est des conneries », bon, d'accord, ça c'est plié, en sachant bien que ces gens-là ne sont pas neutres, ils sont contre nous, et puis il y a ceux qui disent « le Seigneur ne peut faire ni bien ni mal ». Eh bien nous, nous croyons dans la fidélité, dans la justice et dans l'humilité que Dieu peut changer le destin des hommes.